Accent d'Europe, Alice Rougeat.
On le cultivait anciennement pour faire des cordages, puis sont venus les hippies, avec eux les idées reçues. Mais ça y est, le chanvre est de retour. Et en Europe, ce marché en plein essor génère plus de 475 millions d'euros par an. Dans l'Union, la législation est claire, cultiver le chanvre est légal tant que dans sa composition, on n'arrive pas à un taux de THC supérieur à 0,2%. Mais cette loi contrevient à certaines considérations nationales, comme c'est le cas en France. Pourtant premier producteur européen et catalysant 50% du marché, en France, seules les fibres et les graines peuvent être commercialisées. Avec cette plante aux feuilles atypiques et remarquables, qui n'a besoin que de très peu d'eau pour pousser, on fabrique des textiles, des matériaux de construction, mais pas que. En Italie, où la culture du chanvre est légale depuis 2016, on s'en sert à des fins thérapeutiques ou pour l'industrie alimentaire. Ces différents usages faisaient l'objet de 3 jours de rencontres à Bologne. Cécile Debarge, vous êtes notre correspondante en Italie. Quel était l'enjeu de cet événement ?
Après 2 ans d'interruption en raison de la pandémie de Covid, c'est peu dire que les producteurs de chanvre italien avaient des nouveautés à présenter. Du 8 au 10 avril, plus de 200 marques étaient représentées lors de cette foire au chanvre de Bologne, dans le nord-est du pays. Farine, huile, bière, ricotta, lasagne, risotto, biscuits, chauds culinaires. Le chanvre sera indéniablement un ingrédient comme un autre dans la cuisine italienne de demain. Les usages industriels du chanvre séduisent, eux, des producteurs de plus en plus nombreux, de la fabrication de tissus ultra résistants, de filtres aux matériaux de construction, aux bioplastiques ou encore au nettoyage des terrains pollués par des substances toxiques. Au total, le secteur emploie près de 12 000 personnes en Italie pour un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros.
Comment Cécile expliquait cet engouement pour la culture du chanvre en Italie ?
D'abord, et c'est loin d'être un détail, les producteurs de chanvre bénéficient de subventions européennes pour cultiver la plante lorsque sa teneur en THC est inférieure à 0,2%. Ce sera 0,3% dès le 1er janvier 2023. L'Italie a aussi voté dans son budget 2021 une enveloppe de 10 millions d'euros pour relancer plusieurs filières agricoles, dont la culture de chanvre. Enfin, il y a en Italie une vraie mémoire de la culture du chanvre. Dans les années 40, le pays était le 2e producteur mondial après la Russie.
Et alors dites-nous, à quoi servait le chanvre à cette époque ?
Au secteur textile, essentiellement. Avec le développement des fibres synthétiques, les tissus à base de chanvre sont devenus moins rentables. Ajoutez à cela un pays qui a tardé à mécaniser son agriculture. Résultat, entre 1940 et 1970, la production nationale a été divisée par 100. Le coup de grâce a été porté par une législation de plus en plus restrictive sur la culture du chanvre. D'abord, en 1961, lorsque l'Italie a signé la Convention internationale sur les substances stupéfiantes. Et ensuite, en 1975, avec la loi Cossiga, qui réduisait le chanvre à une drogue. Aujourd'hui, et depuis 2016, la loi a été assouplie, même si c'est encore insuffisant pour les producteurs, qui demandent une libéralisation totale de la culture de la plante.
Il faudrait être naïf pour ne pas savoir que le chanvre se fume. On l'appelle tantôt cannabis quand il contient du THC, considéré comme une drogue et donc illégal dans la plupart des pays européens, sauf certains comme Malte ou l'Allemagne par exemple pour des usages thérapeutiques. Son autre nom, c'est le CBD. Une version sans psychotropes. Et ces 3 initiales, vous devez les connaître parce qu'elles fleurissent sur les devantures des boutiques partout en Europe. Le CBD est à la mode, on peut le fumer, le manger, le faire infuser. Alors on vous emmène en Tchéquie, où le CBD évidemment est autorisé et où la capitale Prague est devenue une destination privilégiée par les entrepreneurs du secteur. C'est un reportage d'Alexis Rosenzweig.
La première étape consiste à presser à très haute pression et à injecter du CO2 à travers cette pression pour extraire un extrait de plante qui contient tout, la chlorophylle, les cires, les cannabinoïdes, les terpènes, les parfums. Et c'est de cette extraction, cette mélasse, que l'on va commencer à utiliser et qu'on va travailler pour aboutir à notre extraction des cannabinoïdes.
Il y a 3 ans, Nicolas Fitter s'est lancé dans l'aventure du CBD à Prague, en renonçant à s'installer en Espagne après une mésaventure de son associé à cause de l'évolution de la législation. Il importe aujourd'hui du chanvre bio en provenance de plusieurs pays européens, un chanvre qui doit être transformé en laboratoire.
On est dans les locaux de Aroma Extract Lab, qui est une société qui a pour spécialité l'extraction des cannabinoïdes sous contrôle du ministère de la Santé. La Tchéquie, c'est amusant, même historiquement, est un paradis pour les cannabinoïdes et cette libre activité. J'ai trouvé chez un antiquaire à Prague des documents qui dataient du milieu du 19e siècle où des pharmaciens pragois importaient du chanvre des Balkans de manière absolument légale et régulière pour leur utilisation en pharmacopée locale. Donc il y a vraiment cette tradition du chanvre. Il y a des champs dans Vysočina, par exemple, des grosses productions de cannabis, également à l'est, en Moravie. Et il y a surtout des aspects réglementaires qui sont très favorables. Le gouvernement tchèque et les députés tchèques ont toujours été très tolérants sur le développement de cette industrie.
Cette réglementation tchèque plus permissive a également attiré Sébastien Beguéry à Prague. Précurseur du CBD en France, il y avait lancé la première marque de cigarettes électroniques, Canavap, ce qui lui a valu une condamnation par la justice française qui refusait d'autoriser le CBD à fumer, mais la justice européenne lui a finalement donné raison.
La Cour européenne de justice a stipulé que si un produit était fait de manière légale dans un pays d'origine, il pouvait de ce fait être distribué dans d'autres pays membres de l'Union européenne sous le cadre de la déclaration de Schengen, libre-échange des marchandises.
Donc, vous laissez la possibilité de produire en République tchèque pour vendre en France.
Exactement.
Et je vais citer l'arrêt qui dit que d'après l'état actuel des connaissances scientifiques dont il est nécessaire de tenir compte, à la différence du THC, un autre cannabinoïde du chanvre, le CBD, donc le cannabidiol en cause, n'apparaît pas avoir d'effet psychotrope ni d'effet nocif sur la santé humaine. Fin de citation. Donc ça a été un changement radical, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui s'étaient engouffrés dans la brèche du CBD. Et depuis, c'est un boom monumental, non seulement en France, mais ici aussi à Prague, où on voit des boutiques ouvrir quasiment toutes les semaines. Vous êtes à l'origine de tout ça, en fait.
D'une certaine manière, oui. Suite à cette décision-là, il y a beaucoup de lignes qui ont bougé. Comme vous l'avez dit, sur Prague, il y a de plus en plus de boutiques qui sont ouvertes physiquement. Il y a aussi énormément de boutiques en ligne qui sont développées. La Tchéquie a un lien assez étroit avec le cannabis, comme une plante étant tout à fait normale d'utiliser, puisqu'il y a un passé culturel dans l'usage du chanvre et de la culture du chanvre en Tchéquie. C'est les plus gros consommateurs de cannabis en Europe.
Avec une législation plutôt tolérante en la matière.
Tout à fait. Et donc, en fait, tout ça fait que moi, à l'époque, en 2014, quand j'ai démarré dans le CBD et que je cherchais un partenaire, le laboratoire pour me fournir en CBD, je suis tombé rapidement en fait en Tchéquie, notamment à travers un salon qui a organisé Canafest, où j'ai rencontré justement des Tchèques qui étaient assez avancés sur le domaine et qui travaillaient avec l'université de chimie tchèque et qui avait quelques scientifiques qui développaient sur des premiers procédés en fait d'extraction du CBD à partir de plantes.
Le laboratoire de la société CBD Aroma Extracts travaille justement en partenariat avec l'université de chimie de Prague, où Zuzana Binová est responsable des analyses.
Je suis venue chercher des échantillons d'huile de CBD dans le cadre de notre partenariat et nous allons les étudier puis travailler dessus pour les transformer, mais je ne peux en parler davantage car c'est encore secret.
Le laboratoire est en tout cas soumis à des normes de sécurité très strictes, notamment à cause du THC, la molécule psychotrope contenue dans le chanvre et qui reste prohibée dans un bon nombre de pays.
On extrait le THC de notre préparation. Ce THC, nous avons l'obligation de le faire détruire, nous n'avons pas le droit de le détruire nous-mêmes, par une société spécialisée dans le domaine des narcotiques en Tchéquie, qui vient nous chercher nos THC régulièrement et qui le détruit.
Ce laboratoire pragois propose à ses clients toute une gamme de produits à base de CBD et d'autres cannabinoïdes non psychotropes, de la crème de jour au liquide pour cigarettes électroniques, en passant par des produits pour animaux de compagnie. Le marché est en plein boom, mais la concurrence est rude et les prix de l'énergie nécessaire à la production sont de plus en plus élevés.
Toujours autant de pluie chez moi.
Et toujours autant de pluie chez eux, à Göteborg, en Suède. Dans cette ville, la deuxième du pays, il pleut en moyenne 163 jours par an. C'est 52 de plus qu'à Londres, pourtant pas célèbre pour son ciel bleu. 163 jours, c'est tout bonnement le record européen. Mais contrairement à chez nous, la pluie, c'est le beau temps. Et là-bas, on en a fait un véritable argument touristique, Frédéric Faux.
Il pleut sur Göteborg, comme d'habitude, comme un jour sur trois. Mais ce n'est pas une raison pour rester chez soi. Dans le parc du séminaire, des installations permettent au public de profiter au mieux de cette eau qui tombe du ciel, comme cette bulle en plastique transparente dans laquelle nous entrons avec Magnus Mott.
Il pleut et c'est génial. Nous sommes dans ce que nous appelons un pavillon de pluie. À l'intérieur, vous pouvez voir les gouttes tomber du ciel, glisser sur le côté en écoutant ce beau son de la pluie.
Au sol, il y a une plaque d'égout, l'une des nombreuses qui ont été posées dans la ville et sur laquelle on peut lire un poème lié à l'eau.
Ça parle d'une nuit humide. La nuit arrive comme une vague de la mer et bouleverse nos vies. Tous les ans, nous choisissons un grand poète.
À quelques mètres de là, de mystérieux globes suspendus recueillent l'eau de pluie.
La nuit, quand c'est allumé, on voit les reflets de l'eau qui bouge. C'est comme dans un rêve.
Donc, non seulement vous permettez aux gens de rester dans ce parc quand il pleut, mais en fait, vous les encouragez. Il y a des choses ici qu'on ne peut voir que quand il pleut.
Exactement. Et ce n'est qu'un début. Si nous faisons des choses comme ça partout, un jour, nous serons la meilleure ville où vivre quand il pleut.
Magnus Mott est l'un des deux hommes derrière le projet Rein Göteborg, dont le but est simple, faire de ce qui peut apparaître comme un handicap une chance. Travailler avec tous les services de la mairie de la ville pour qu'ils intègrent l'eau et ses bienfaits dans leur projet. L'autre est un artiste, Jens Toms Indarsson. Pour lui, l'eau est un matériel unique, inépuisable, dont la beauté peut même survenir par accident.
J'ai fait ce film avec mon téléphone quand j'étais dans le tram à Göteborg. La bande de caoutchouc qui réunissait le double vitrage s'était rompue et l'eau de pluie s'est retrouvée coincée entre les deux vitres. Ça a créé une véritable installation artistique. Vous voyez la ligne de l'eau là et quand le tram freine, ça commence à bouger. Et les gens commençaient à regarder ça comme une œuvre d'art. Alors j'ai parlé à la compagnie de transport et je leur ai dit « Vous devriez travailler avec des artistes pour préparer certaines fenêtres à l'avance pour qu'à chaque fois qu'il pleut, les passagers puissent avoir une petite expérience artistique. »
Des projets comme celui-ci, Rein Göteborg en déborde. Le groupe a même demandé à une compagnie locale de créer une nouvelle danse de la pluie. Car l'objectif aujourd'hui est bien de changer les esprits.
Dans toutes les villes, on est confronté à cette gestion des eaux de pluie et nous poussons la ville à élargir les équipes pour qu'elles intègrent des designers, des artistes, dès le début des projets. Par exemple, nous avons l'école de Torslanda. La construction a commencé il y a un an et elle sera la meilleure école quand il pleut. L'eau sera collectée sur les toits pour créer des cascades.
Cette école n'est pas encore ouverte, mais certaines de ses idées ont déjà vu le jour. Dans la voiture de Magnus, nous traversons la ville pour nous rendre dans une aire de jeux pour enfants spécialement conçue afin de profiter de cette pluie à laquelle Göteborg ne peut guère échapper.
C'est juste un fait. L'humidité monte des nuages depuis la mer. Et quand elle rencontre les côtes de la Suède et de la Norvège, alors elle retombe sous forme de pluie. Donc on a encore beaucoup de travail à faire pour transformer cette pluie en quelque chose qui a de la valeur.
Cette philosophie, c'est tout à fait celle qui a prévalu à la construction de cette nouvelle aire de jeu.
C'est comme une aire de jeu traditionnelle, avec ses balançoires. Mais vous avez ces toits en forme de feuilles.
Ce sont des sortes de nénuphars géants, des nénuphars géants métalliques. Il y a des bancs pour s'asseoir, donc c'est utile et c'est très beau aussi.
Oui, c'est très beau. Et l'eau d'une feuille s'écoule dans une autre, puis une autre, jusqu'à l'endroit où les enfants peuvent jouer avec.
Et les enfants apprécient, comme le confirme Sarah, venue avec son mari et sa fille de 3 ans.
Elle adore ça. Et elle aime ça aussi.
En fait, il y a un autre endroit qu'on ne va pas montrer. Le sol est spécialement creusé pour faire des flaques. Est-ce que ça a été dur de s'adapter au climat de Göteborg ?
Moi, j'aime la pluie. C'est plus difficile pour mon mari.
Pour moi, c'est pénible de devoir mettre tous ces vêtements supplémentaires. Je préfère sortir quand il fait beau.
Il faudra pourtant qu'il s'habitue. Avec le changement climatique, Göteborg devrait subir des pluies plus violentes et plus fréquentes.
Let me know when you're ready.
That's a good start.
C'est vendredi et c'est l'heure de votre chronique musicale. Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Alice, bonjour à tous.
C'est le retour de vétérans de la pop aujourd'hui.
Et oui, quand en 1996, le groupe écossais Belle & Sebastian commence à faire parler de lui avec ses chansons pop fragiles, ses pochettes de disques colorés et la dégaine d'étudiants timides de ses 8 musiciens, il incarne une certaine idée romantique de l'adolescence et personne à l'époque ne se serait risqué à parier sur la durée de vie de ce collectif basé à Glasgow. Et pourtant, au fil des ans et des projets les plus variés, l'auteur-compositeur Stuart Murdoch et ses camarades ont réalisé l'exploit de conserver intact leur énergie et leur enthousiasme sans jamais tomber dans la redite. La preuve, une fois encore, avec le formidable A Bit of Previous, 7e album de Belle & Sebastian.
Accent d'Europe, Donatien Cahut à la réalisation. Comme toujours, le podcast est à retrouver sur notre site RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Bon week-end et à lundi. Talk to me, talk to me.